t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bon début de semaine en compagnie de Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Lutte contre le coronavirus, le président Félix Tshisekedi a évoqué la question la semaine dernière avec ses deux homologues africains, le centrafricain Faustin Archange Touadéra qu'il avait reçu à Kinshasa et le malgache André Rajoelina. Les trois chefs d'État ont convenu de l'importance de la mutualisation des atouts, connaissances et efforts des pays africains pour lutter efficacement contre cette pandémie qui a déjà fait près de 1760 décès sur le continent. Qu'en pensez-vous? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine mis à nom de par Polydor Basunga. Tati Mapoukou est à la réalisation et Gérard Lungebo. Merci fidèles auditeurs d'être avec nous en direct. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Vous pouvez également commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Notons que l'Afrique comptait ce dimanche 3 mai 43 343 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à près de 1761 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont les deux pays les plus touchés, suivis par le Maroc, l'Algérie, le Nigeria et le Ghana. Et comme je le disais tout à l'heure, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec ses deux homologues. Il s'agit de Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain qu'il avait reçu ici à Kinshasa. Il s'est entretenu également avec le président malgache André Rajoelina au menu de ces discussions. L'encouragement de l'Afrique à pouvoir mettre ensemble les atouts, les connaissances, les efforts afin de lutter efficacement contre cette pandémie qui a déjà fait, comme je le disais tout à l'heure, près de 1700 morts. Alors, la RDC avec ses 9 voisins, tous qui sont concernés par des cas de coronavirus, comment au niveau de la sous-région et au niveau africain, les pays peuvent-ils mutualiser leurs forces pour lutter contre cette maladie? Vous êtes nombreux à commenter ces sujets. Josué, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. C'est Josué Hassani, coordonnateur du mouvement citoyen Ensemble des Peuples.
On vous écoute, Josué.
En fait, la mutualisation dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qu'on appelle coronavirus, c'est quelque chose de très salutaire, en tout cas que nous sommes en train de saluer à visage découvert. Mais ce que je voudrais dire, selon ma façon de voir les choses, les stratégies qu'il pourrait encore mettre en place. Je voudrais dire qu'il serait utile que les chefs de l'État, ou bien les chefs des États qui vont se réunir autour de cette question, il serait bon qu'ils puissent faire d'abord l'évaluation de certaines mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Et après tout, les mesures qu'ils verront qu'ils trouveront inefficaces dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, en tout cas, il ne serait pas bon de les maintenir. J'en fais pour preuve. Allez-y comprendre Pierrot et la Mégie. En République démocratique du Congo, avant la fermeture des églises, des écoles et qu'en sais-je, le coronavirus, c'était à 14 à 18 cas comme ça, mais après avoir pris cette mesure de la fermeture des églises, le coronavirus a continué à prendre la vitesse du train. Donc, Les mesures qui ont été faites ne sont plus les véritables causes des propagations de cette épidémie. Donc, c'est selon ma façon de voir les choses, je voudrais conseiller seulement aux chefs des États qui vont se rencontrer d'écarter les mesures qui n'ont pas pu vraiment aider à la riposte contre cette maladie.
Voilà. Alors pour vous, Josué, vous estimez que pour les pays africains, il faut qu'ils puissent faire l'évaluation et de pouvoir abandonner les mesures qui n'ont pas été efficaces, parce que vous l'avez dit, presque dans beaucoup de pays africains, quand ils ont pris les premières mesures de fermer les écoles, les églises, les universités, le marché, fermer les frontières, on avait peu de cas. Et aujourd'hui, il y a une augmentation des cas, que ce soit en RDC et dans ces autres pays africains. Et pour vous, il faut que les pays africains revoient les mesures qui ne sont pas efficaces et pouvoir les laisser tomber. Merci beaucoup. Shadrach, vous êtes en Boujimaï. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour M. Perrault. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Et comment au niveau africain, les pays africains peuvent-ils aujourd'hui mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre le coronavirus?
Merci beaucoup, M. Perrault. Voilà le pourquoi j'ai aimé la rencontre de ces trois leaders et salutaires, dans la mesure où cette dernière vise à lutter efficace et efficiente contre le coronavirus. Moi, j'estime à mon humble avis, comme le chef de l'État l'a fait, c'est à saluer. Nous pouvons nous servir de la jurisprudence, comme celui son homologue malgache, parce que eux, quand même, avec le Covid organique, moi, j'estime qu'ils ont quand même résolu quand même un peu le problème. Moi, j'estime mais qu'on peut aussi s'inspirer de cette manière de faire, enfin de nous sauver, et surtout que, M. Perrault, la vie humaine est sacrée. Nous, Congolais, vraiment, nous avons perdu tant de Congolais. Alors, il est temps de sauvegarder un peu le peu de nos vies. Alors, moi, j'estime que le chef de l'État, je l'encourage, je le félicite. Moi, j'estime que tout le moyen qu'ils peuvent mettre en place, moi, je suis totalement d'avis pourvu qu'on éradique cette épidémie. Je pense qu'on peut aller plus loin, comme le ministre de recherche scientifique l'avait fait. Je crois qu'ils peuvent aussi se réunir, le ministre scientifique peut aussi convoquer les chercheurs congolais, les chercheurs malgaches, les chercheurs du Centrafrique, afin de se retrouver autour d'une table, afin de voir dans quelle mesure ils peuvent aussi éradiquer. Sur le plan aussi de moyens, je crois que cette pandémie demande aussi de moyens entre ces trois États. Ils peuvent aussi s'aider entre eux mutuellement, se créer, faire quelques potes, afin qu'on éradique cette pandémie. Moi, je suis totalement d'avis, M. Perrault. Moi, j'estime que toutes les mesures qui seront mises en place par ces derniers, je suis totalement d'avis, afin qu'on éradique cette pandémie. Voilà un peu ma manière de voir les choses, M. Perrault.
Merci. Merci beaucoup. Vous aviez suivi d'ailleurs, même sur les antennes des radios Capi, le ministre de la recherche scientifique était passé dans le cadre des mutualisations de recherche et des efforts qui doivent être faits au niveau de l'Afrique. Alors, vous souhaitez qu'il y ait l'association des chercheurs centrafricains, congolais, malgaches, sénégalais, pour tout ça, des chercheurs africains puissent se mettre ensemble leurs connaissances et sortir des protocoles qui peuvent aujourd'hui aider la population à faire face à la pandémie de coronavirus. Merci beaucoup, Shadrach Simon. Vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ouais, bonjour Pierrot et Lamenji. Bonjour également à tous les auditeurs. C'est Simon Kalukanda depuis Kananga.
Oui, on vous écoute.
Ouais, merci beaucoup Pierrot pour la thématique. Je pense que cette initiative des chefs d'État africains, elle est vraiment à saluer. Mais il y a quelque chose que je voudrais d'abord rappeler, c'est que cette pandémie, elle est importée de l'Asie. Et si les chefs d'État africains venaient à se réunir pour pouvoir combattre cette pandémie, c'est bien bon. Mais est-ce que pouvons-nous combattre cette pandémie dans une zone, d'autant plus qu'elle existe encore dans une autre zone? Il y aurait plus de risques que cette pandémie revienne encore en Afrique si elle continue à exister en Amérique, en Asie et bien d'autres dans d'autres continents. Alors ma position sera à ce que toutes les forces politiques puissent se réunir. Nous avons l'Union africaine, nous avons l'Union européenne, nous avons en Amérique ainsi qu'en Asie, en Océanie. Il y a beaucoup de forces politiques qui pouvaient se réunir ensemble pour tabler et trouver de meilleures solutions scientifiques, politiques, pour pouvoir barrer route à cette pandémie. Si seulement les États africains se réunissaient eux-mêmes et prendre des solutions pour lutter contre le coronavirus seulement en Afrique,
d'autant plus que ça existe encore dans d'autres continents. Il y aura encore plus de risques que ça vient.
Mais quand vous suivez aujourd'hui, Simon, si vous suivez aujourd'hui, les efforts sont planétaires aujourd'hui dans la gestion, dans la question de coronavirus. Il y a aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez suivi avec l'Union européenne qui estime mobiliser plus de 7 milliards de dollars américains qu'il faut aujourd'hui financer la recherche du vaccin ainsi que du traitement. Cela veut dire que les efforts sont d'une manière globale. Mais par rapport à l'Afrique, vous estimez qu'il doit y avoir aussi des efforts qui doivent être réunis en Afrique, mais sans oublier ce qui s'est fait ailleurs pour éviter qu'il y ait une nouvelle vague d'infection après que la maladie soit éradiquée en Afrique et qu'elle puisse encore traîner ailleurs à travers le monde. Mais aujourd'hui, les efforts sont dirigés dans le sens où tous les pays du monde se mettent ensemble pour sortir soit le vaccin, soit le médicament pour lutter contre la maladie. Merci beaucoup, Simon. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Nous saluons quand même ce sujet. Je pense qu'il était important, nous l'avons dit. Cela pouvait se faire d'ailleurs au préalable avant que les pires n'arrivent. Je pense que si les trois présidents se sont retrouvés, c'est une bonne chose. Mais je préférais que cet espace d'entretien s'élargisse à tous les chefs de l'État de l'Afrique, parce que nous avons un seul ennemi commun pour le moment. Et là, j'en interpelle un peu à certains pays qui nous environnent. Il n'est pas temps, ça c'est une sonnette d'alarme que nous lançons, s'il vous plaît. Il n'est pas temps pour que les gens se distraient à autre chose, des guerres qui ne semblent pas dire les noms. Non, c'est le moment de se mettre ensemble, de commun accord pour bouter hors d'état de pour élaguer un peu cette pandémie qui semble prendre une ascension un peu vraiment inquiétante. Donc il revient au chef de l'État de pouvoir se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour pouvoir trouver une voie de sortie. S'il faut peut-être se cotiser entre eux, pouvoir peut-être trouver un moyen considérable pour mettre sur pied des mécanismes adéquats pour bouter hors d'état de nuire cette pandémie, ce serait une bonne chose. Mmh.
Et là, Jérémy, vous avez évoqué la rencontre entre les chefs d'État. Rappelons qu'il y a 3 semaines, au niveau de la CEDEAO, il y a eu un sommet consacré exclusivement d'ailleurs à coronavirus qui a réuni les chefs d'État de la CEDEAO. C'était bien sûr en visioconférence, ils se sont retrouvés, mais peut-être on aurait aimé l'élargissement de ce genre de rencontres, que ce soit au niveau de la CAC, que ce soit au niveau de la CIRG, au niveau de la SADC. Cela veut dire, pourquoi pas aussi une grande rencontre de l'Union africaine avec l'ensemble des chefs d'État en visioconférence, et comme ça ils peuvent aller plus loin et dégager des pistes, des solutions pour lutter efficacement contre la pandémie. D'ailleurs, tout à l'heure, je voyais sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs un internaute qui estimait que le chef d'État africain devrait en principe stimuler leurs chercheurs à pouvoir adapter des solutions, de trouver des solutions adaptées aux réalités africaines pour faire face à la pandémie de coronavirus. Merci beaucoup, Jérémy Trésor. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Paroles aux auditeurs.
Monsieur Pierrot et Damien, j'ai fait mienne toutes les suggestions faites par ceux qui sont intervenus avant moi.
Non, on a des petits soucis avec votre ligne Trésor. On pourra voir avec la réalisation, parce que là, vous sortez entrecoupé. Il est très difficile de pouvoir vous suivre. Vous pouvez continuer à commenter sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Mais nous avons notre invité en ligne, Dr Michel Moufoudi, spécialiste en santé publique et membre du comité ou de l'équipe des ripostes COVID-19 en RDC. Dr Michel Moufoudi, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot et la Mégie.
Tout à l'heure, je venais de le dire, sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, un internet estimait que les pays africains devraient, en principe, leurs chercheurs, leurs spécialistes, dégager des pistes et solutions adaptées à la réalité africaine pour faire face à la pandémie de coronavirus. Est-ce que vous avez cette impression que les pays africains ont tendance à converger leurs points de vue, leurs idées, pour avoir de solutions communes par rapport à cette crise sanitaire?
Je pense que personnellement, sur ce point de vue-là et en tant que spécialiste en santé publique, il faut d'abord noter 2 petits points. Le premier point d'abord, c'est que tout le monde est conscient que la situation actuelle de la pandémie au Covid-19, c'est une situation tout à fait nouvelle. et donc qui invite tous les acteurs, les pays y compris, à apprendre et à réfléchir sur des mécanismes innovants. Donc ça, c'est clair que il faudra vraiment que les gens ouvrent ces espaces pédagogiques pour apprendre. Donc tout le monde veut apprendre de ce qui se passe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut comprendre que à travers le monde, il s'est créé quand même une espèce de solidarité, pas seulement en termes d'aide, mais aussi en termes d'intelligence collective. Vous voyez, par exemple, que cette épidémie a donné une très très bonne opportunité à plusieurs talents de se réveiller et de proposer des solutions, que ça soit en Afrique ou même en dehors de l'Afrique. Donc ça, c'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir. Maintenant, par rapport à votre question, je crois que de plus en plus, on se rend compte que il se crée aussi en Afrique de pôles de discussion. Il s'est créé aussi des plateformes de convergence d'idées, notamment sur les thérapies, donc les médicaments, mais aussi sur les contextes qui sont tout à fait variés entre les différents pays où chacun veut montrer qu'est-ce qu'il a fait. Donc vous avez suivi par exemple que les chefs d'État ont discuté entre eux sur des possibilités d'apprentissage, mais aussi entre nous, par exemple, acteurs de santé publique, nous voyons par exemple à travers les réseaux qu'il y a vraiment une diffusion et un partage d'informations qui permet à chacun de comprendre qu'est-ce qu'il peut faire. Pour moi, je crois que ça, c'est quelque chose qui commence à venir de plus en plus, surtout que nous sommes dans une phase où le phénomène exige beaucoup de solidarité, y compris beaucoup de synergie en termes d'intelligence collective.
Mais on sait que la RDC fait face à 9 voisins qui tous sont, je pense bien, reportés les cas de coronavirus. Vous avez le Rwanda, vous avez le Burundi, le Congo-Brazza, vous avez la Centrafrique, presque tous les pays qui entourent la RDC. Quelle pourrait être aujourd'hui la vision de la RDC avec ses 9 voisins dans les réponses, parce que quand même ils partagent des frontières qui ne sont pas une, plusieurs frontières.
Exact. Je pense que je l'avais même mentionné dans une de mes émissions. En tant que spécialiste en santé publique, moi le conseil que je donne aux décideurs, c'est d'abord que les gens comprennent que même si au sein de la RDC on a pris des mesures, notamment pour mettre en quarantaine Kinshasa et épargner les provinces, vous l'avez mentionné Pierrot, les provinces peuvent très vite s'infecter à partir des pays limitrophes. Vous en avez mentionné, nous en avons 9. Ça veut dire autant nous mettons des mesures internes pour pouvoir endiguer la pandémie, autant il faut aussi avoir un contrôle transfrontalier pour éviter justement que nous ayons des infections qui viennent d'autres pays. Nous avons eu d'ailleurs un cas malheureux, c'est au Katanga, avec le cas qui est venu du Kenya. Vous avez vu que le cas est passé par la frontière et a infecté la province du Haut-Katanga. Donc c'est pour vous dire encore une fois de plus que le risque entre les provinces de la RDC qui font frontière avec certains pays est là. Maintenant, je crois que autant nous avons toujours eu cette dynamique quand nous recherchons par exemple la paix dans la région. Vous avez vu chaque fois qu'il y a une guerre ou qu'on a des groupes armés au niveau des frontières ou au niveau des bandes frontalières, il y a toujours ce dialogue qui se crée entre les pays. Autant je crois qu'aujourd'hui, la lutte, et surtout qu'on parle d'une pandémie, ça veut dire que c'est une maladie qui traverse les frontières, nous sommes obligés justement d'avoir un dialogue avec les autres pays. Et je suis tout à fait en ligne avec ceux, par exemple, qui ont assisté dernièrement à des discussions entre le Rwanda et la RDC, parce que au moment où le Nord Kivu était touché, on en avait justement ce débat. Et ça, c'est très bien sur le plan santé publique d'avoir ce genre de discussions, parce que finalement, vous avez des mouvements des populations entre les frontières. Et comme je l'avais mentionné encore une fois, le virus ne circule pas, ce sont les hommes qui circulent. Donc ça veut dire que si justement on veut contrôler les virus, ben les mouvements transfrontaliers doivent être contrôlés. Et pour les contrôler entre pays, il faut absolument une collaboration régionale.
Mais on sait aujourd'hui que quand on regarde la sous-région, j'ai parlé du sommet de la CEDEAO tout à l'heure, où les chefs d'État s'étaient réunis en visioconférence pour cette question de coronavirus. Mais quand on regarde, par exemple, la sous-région de Grand Lac, avec la conférence internationale sur le Grand Lac, on s'est beaucoup plus focalisé sur les questions politiques, les questions sécuritaires. Est-ce qu'en amont, y a-t-il eu déjà des cadres de concertation scientifique aujourd'hui, que ce soit des échanges au niveau, avec des spécialistes pour d'autres questions que des questions politiques et sécuritaires au niveau de la sous-région?
Exactement. Donc je pense que vous l'avez mentionné, je l'ai dit aussi, ça veut dire que si nous avons justement ce réflexe sur d'autres thématiques, sur d'autres volets, notamment politique, sécuritaire, ainsi de suite, commerce, transactions et tout, Je crois que ce serait aussi important, en tant que spécialiste en santé publique, qu'on ait ce genre de réunion. Et je crois qu'il faut pousser davantage, vu que la crise est sanitaire, il faut justement pousser davantage que les experts qui sont dans la région et qui travaillent dans des contextes différents puissent aussi avoir ce genre d'échange. Parce qu'à la fin de la journée, vous devez comprendre que les conseils qu'il faut apporter vont venir des experts, vont venir des spécialistes. Et si ces spécialistes n'ont pas une vue holistique de tout ce qui se passe dans la région, je crois que ça va être difficile. Donc pour moi, il est temps d'encourager justement ce transfert de messages, ce transfert de connaissances entre spécialistes à travers la région. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faudra bâtir le plus rapidement possible, surtout qu'on est dans une situation où la crise est totalement sanitaire, pour le moment, en tout cas, même si elle a des impacts sur d'autres volets. Et pour moi, une réponse technique va exiger justement une collaboration régionale et un transfert d'informations entre parties prenantes.
On revient à vous, docteur Michel Moufoudi. Il est temps d'écouter d'autres auditeurs, hein, héritiers, nous appellent des Bougnas. Merci d'être avec nous en direct, héritier. Bonjour.
Bonjour.
Et vous faites aussi frontière avec l'Ouganda de l'autre côté. Notre débat aujourd'hui, c'est comment arriver à mettre ensemble les forces au niveau de l'Afrique, hein, pour avoir des réponses adaptées à la question des coronavirus. Quel est votre point de vue?
Mon point de vue est que les initiatives prises par les chefs de l'État, c'est encouragé parce que notre pays fait face aussi à cette pandémie de coronavirus. Alors lorsque le chef de l'État a déclenché un état d'urgence, a se réunissant avec les trois présidents de différents pays, c'est encouragé. Et donc aussi, on pourrait aussi recourir aussi à notre pays qui a déjà eu des ministères de ces cas pour que aussi notre pays puisse avoir aussi des matériels sophistiqués pour mettre fin à cette pandémie de coronavirus et que toute la population puisse revenir à ses activités régulières.
Merci beaucoup, héritier. Votre souci, comme vous l'avez dit, c'est vous avez dit qu'il faut recourir à certains pays qui ont déjà fait face. Cela veut dire, au niveau de pays africains, on peut voir ceux qui ont peut-être eu une expérience par rapport à d'autres. Bien sûr qu'on continue à lutter tous. Le pays qui a déjà une expérience peut apporter son expérience envers l'autre. On a vu d'ailleurs avec le cas de l'épidémie d'Ebola, l'équipe conduite par le professeur Mouyembe s'était rendue en Afrique de l'Ouest, vous vous rappellerez, où il y avait beaucoup de morts avec Ebola. L'expertise congolaise a été apportée là-bas et vous aurez aimé qu'un pays qui a déjà une expertise puisse l'apporter à un autre pays africain en termes de prise en charge de coronavirus. Merci beaucoup, héritier Gloire. Arsène, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs, merci.
On vous écoute, oui.
J'encourage cette initiative de ces trois pays à pouvoir se mettre ensemble afin de discuter d'abord sur la situation qui écume l'Afrique tout entière. Mais je la trouve un peu restreinte au point où il n'y a que trois pays qui se réunissent alors que l'Afrique en compte plusieurs. J'aurais bien voulu que ce projet ou bien que cette initiation soit élargie, où on pouvait retrouver des différents chefs d'État qui pouvaient siéger et organiser des travaux généraux extraordinaires auxquels on pouvait aussi associer les scientifiques. Pour rappel, nous savons que la pandémie à coronavirus, c'est une nouvelle apparition qui échappait bien avant au monde scientifique, c'est-à-dire à l'étape actuelle, tout le monde s'y met pour faire des recherches quelconques sur la prise en charge, pour savoir la cause et qu'on sort. Donc je trouve qu'on devrait vraiment intéresser tous les autres présidents africains, organiser des travaux, associer aussi les scientifiques. Et ces genres de travaux devraient d'abord commencer par l'étape évaluative. C'est-à-dire chaque pays pouvait commencer à dire comment il est organisé pour arriver à riposter contre cette pandémie et trouver des nouvelles stratégies qu'il faut mettre en évidence pour la suite du traitement et comment savoir se protéger vis-à-vis de ça. Et revenons aussi sur le plan local, c'est ça que je demanderais, moi, au président Félix. Parce que vous vous rendez compte que nous en sommes aujourd'hui à plus de 680 quelques cas, déjà déclarés en RDC, alors qu'il existe déjà un projet de riposte qui est financé, mais l'évolution semble être toujours de croisière, quoi. Donc le président devait organiser, comprendre qu'on est à l'étape où le programme est en train d'échouer, tant bien même qu'on a 80 cas de guéris jusque-là, mais le nombre est très important et c'est inquiétant. Je trouvais bien que le président devrait organiser un conseil national, c'est-à-dire une conférence dans laquelle on pouvait inviter toutes les couches scientifiques, c'est-à-dire chaque province devrait être représentée. Par exemple, ici, il y a le professeur Ekwalanga qui avait proposé un protocole de prise en charge, mais il est ignoré par les programmes de riposte. Et pourtant, une très bonne solution pour arriver à barrer la route à cette situation. Je trouve qu'on arrive à empirer la situation dans les chiffres que dans la pratique. Mmh. Il y a les programmes de la riposte, mais les projets, ou bien ceux-là qui sont chargés de cela n'arrivent pas à... Ils ne sont pas vraiment à la hauteur de la situation. C'est pourquoi on ne devrait pas rester orgueilliste. On devait intéresser tout le monde, tous les scientifiques. Chacun amène aussi ses idées. On essaie de les mettre ensemble et voir comment adapter la situation.
Mais n'oubliez pas aussi, Arsène, qui a aussi la part de la responsabilité au niveau de la communauté. Merci beaucoup, hein. Et on le disait d'ailleurs tout à l'heure sur le réseau social où les gens se demandent pourquoi il y a une explosion des cas, pourquoi il y a beaucoup de cas. Mais c'est au même moment que les mêmes personnes ne respectent pas la distanciation sociale, les mêmes personnes ne portent pas de masque comme c'est demandé. Les masques doivent être obligatoires, mais en réalité, il est aléatoire. Vous voyez un peu ça. Ça veut dire qu'il y a aussi la responsabilité de l'équipe des ripostes, mais la responsabilité aussi communautaire, elle est très très importante. Merci beaucoup, Gloire. Mais rappelons que le président Félix a reçu le président centrafricain et il s'est entretenu à travers le réseau des télécommunications avec le président malgache. Mais vous aurez aimé que ça soit de tels genres d'initiatives, des discussions entre les chefs d'État soient élargies au niveau de la sous-région, pourquoi pas même au niveau de l'Union africaine, pour dégager ensemble des pistes pour lutter contre cette pandémie. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Congolaises et Congolais, chers frères et sœurs, je viens auprès de vous pour vous faire part des recommandations du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé relative à la prévention contre le coronavirus. Il s'agit des gestes barrières à initier au quotidien, non seulement pour nous protéger, mais pour protéger les autres. Lavez-vous régulièrement les mains et avec du savon. Utilisez une solution hydroalcoolique. Évitez au maximum de toucher votre visage avec les mains potentiellement contaminées. Évitez les rassemblements de foule et de fréquenter des lieux publics où les interactions peuvent être fréquentes. Dans le doute que vous soyez vous-même porteur de virus, toussez et éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir qui sera immédiatement jeté. Limitez au maximum les contacts en gardant une distance d'un mètre environ entre soi et les autres, et surtout avec une personne qui tousse ou qui éternue. Arrêtez de faire la bise ou de serrer les mains. Je compte sur vous tous, pour sensibiliser les personnes autour de vous afin de suivre scrupuleusement ces recommandations. Chers papas, chères mamans, chers jeunes, respectons scrupuleusement ces recommandations des autorités sanitaires. En le faisant, nous nous protégeons et nous protégeons les personnes autour de nous. Soyons responsables. Ensemble, nous sommes une communauté forte. Ensemble, nous viendrons à bout du coronavirus. Que Dieu nous garde et qu'il bénisse la République démocratique du Congo.
Ceci est un message de Madame Denise Nyakiru, première dame de la République démocratique du Congo.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Nous revenons à vous, docteur Michel Mouvoudi. Alors, vous avez suivi les compatriotes, hein. Si je reviens à ce que disait tout à l'heure notre compatriote Gloire qui est à Lubumbashi, c'est-à-dire que, héritier qui est intervenu à Bunia. Ils estiment qu'on peut aujourd'hui, peut-être un pays africain peut recourir à un autre qui a déjà peut-être fait preuve dans la prise en charge ou des réponses à apporter à coronavirus. Y a-t-il aujourd'hui, c'est quand vous regardez, il y a un pays qui a vraiment assez évolué, qui peut proposer ces pistes et solutions à d'autres pays. Mais notre frère Gloire est revenu un peu à l'interne, hein, parce qu'il s'inquiète un peu de voir qu'on a pris des mesures, mais il y a une forte augmentation des cas. Est-ce que c'est un problème de l'efficacité des interventions? Et moi, d'ailleurs, j'ai évoqué aussi tout à l'heure la responsabilité de la communauté. Quelle est votre réaction?
Merci beaucoup, Pierrot. Trois petites réactions là-dessus. Donc, la première réaction, c'est d'abord très clair qu'il y a beaucoup à prendre dans cette riposte. Hein. Le virus est nouveau. Donc, toutes les bonnes initiatives qui sont menées par d'autres pays, d'autres experts, qui montrent qu'on peut diminuer la mortalité, qui montrent qu'on peut améliorer le dépistage, qui montrent qu'on peut mieux passer les messages, c'est toujours bien. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment que les gens travaillent dans ce sens-là. De dire, OK, je peux toujours apprendre de l'autre. Et c'est comme ça que moi, j'encourage toutes les initiatives, j'encourage tous les talents, OK, qui sortent et qui disent, nous, on peut proposer quelque chose. Il faut pas les inhiber. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, je crois que vous l'avez noté aussi. Donc, on a une augmentation, justement, des cas pour plusieurs raisons, hein, notamment, les cas récents qu'on a eu à détecter dans la prison de Ndolo, qui ont, justement, fait le boom. Ça, c'est très clair. Mais aussi, on a essayé vraiment à ce stade d'intensifier les mécanismes de dépistage. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, je l'avais déjà mentionné dans une de mes discussions, c'est qu'en fait, j'ai l'impression justement que, au vu de la manière dont l'épidémie a commencé en RDC, il est probablement clair que la maladie avait déjà commencé sa propagation à bas bruit et que nous, on n'avait pas justement des mécanismes de détection. Et que je suis sûr aujourd'hui que si on augmente la détection, si on augmente le dépistage, on peut arriver à détecter le plus grand nombre de cas. Vous avez par exemple ce qui s'est passé à la Gombe. Okay, en confinant Gombe, je me rappelle, pour 2 semaines seulement, on a eu 31 cas. Et je pense que si on continuait justement à faire ce travail dans les autres communes, on aurait beaucoup de cas. Donc pour moi, il est tout à fait clair qu'il faut intensifier le dépistage. Parce que si on intensifie le dépistage, on va détecter des cas cachés. Et si on les traite, on les isole, on va éviter la propagation. Maintenant, de l'autre côté, il faut aussi avouer que si on veut à la fois détecter les réservoirs et les traiter, mais aussi arriver à une efficacité en termes de propagation, il faut, c'est le troisième point que vous avez mentionné, Pierrot, c'est qu'il faut insister sur l'application des mesures barrières. Je crois que aujourd'hui, on est unanime sur ce qu'il faut faire pour éviter la propagation du virus. Mais le problème qu'on a, c'est l'application. Et il faut que la population participe. On l'a mentionné plusieurs fois personnellement dans mes conseils que je donne à la population. J'essaye d'insister justement sur l'application, le respect des mesures barrières. Une chose, c'est qu'on vous les dise. OK, on va vous dire, portez le masque, c'est obligatoire. Lavez-vous les mains. On va vous dire qu'il faut adopter une attitude quand vous toussez, vous éternuez, ainsi de suite. Mais il faut que les gens appliquent cela. Si on n'applique pas ça, on ne va pas y arriver. Mais le constat, quand vous visitez les communes, vous vous rendez justement compte que ce soit la distanciation, le port de masque, que ce soit le lavage de mains, ce ne sont pas des mesures qui sont strictement appliquées par la population. Et là, c'est encore une fois de plus l'occasion d'exhorter la population, de l'encourager et de vraiment l'éduquer à pouvoir suivre ces mesures. C'est le moyen le plus efficace à mettre fin à la propagation du Covid-19.
Mais d'ailleurs, vous voyez, il y a une discussion que j'ai suivie ce matin tout à l'heure où les compatriotes disaient que beaucoup de gens doutent encore. Il y a un sondage, je crois, d'une société des sondages qui estime que plus de 50% des Congolais doutent encore de la maladie. Pour eux, ils voudraient qu'on leur montre dans des reportages, qu'ils voient des malades, comment ils sont hospitalisés. Quand on parle des morts, qu'on le montre. Hein, et comme ça, ils pourront croire qu'exactement, il y a la maladie.
Parce que, exact. Je crois qu'on a déjà suffisamment communiqué sur ce point. D'abord, le premier point à savoir, Monsieur Pierrot, c'est que les évidences sont là. On a eu même des personnes qui ont pris le courage de témoigner de cette maladie. Il y a des cas qui ont eu la maladie, qui ont témoigné. Vous l'avez vu vous-même, vous l'avez suivi sur les ondes. Les gens qui sont passés courageusement disent « J'étais malade du Covid, j'ai été soigné, je suis guéri ». crois que ça, c'est important de le savoir. Et il faut que les gens comprennent que on a dépassé ce stade de dire oui ou non Covid. Oui ou non, le Covid atteint les noirs, ne l'atteint pas. Oui ou non, le Covid résiste à la chaleur, ne résiste pas. Ce stade, nous l'avons dépassé depuis la nuit des temps. Ça, c'est le premier point. Et je crois qu'on a des évidences. Ceux qui ne veulent pas croire, c'est juste une incrédulité. C'est très dangereux parce que ces personnes sont en train, justement, de participer à la chaîne de transmission. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous devez comprendre que lorsque l'épidémie a commencé en RDC, il y a eu quand même un phénomène assez triste, c'était la stigmatisation. Moi, je me rappelle qu'il y avait des personnes qui utilisaient les images, les photos des malades pour en faire des sujets de stigmatisation et de discrimination. Rappelez-vous, hein, moi je voyais comme ça des photos des gens balancées dans les réseaux sociaux, mais il faut lire les commentaires que les gens faisaient sur ces personnes. C'était pratiquement des gens, moi à leur place, c'est vraiment une mort psychologique qu'on m'entraînait parce que vous sentez qu'il n'y a aucun égard, aucune empathie des personnes touchées. Et culturellement, ça peut avoir un impact quand vous êtes malade et que vous voyez que vos images sont partagées à travers les réseaux et que les gens en font des sujets de rigolade, les gens en font des sujets de discrimination, ça peut avoir une répercussion sur la population. Ça veut dire que demain, si Pierrot ou Michel est malade, qu'est-ce qu'il va dire? Non, je n'oserais pas le dire parce qu'on va voir ma photo à la télévision, on va voir ma photo dans les journaux. Sans oublier, Pierrot, le troisième point, que quel que soit ce qu'on est en train de vivre, le personnel de santé est tenu à ce qu'on appelle le secret professionnel.
Oui.
Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas diffuser la photo de Pierrot ou de Michel qui est malade sans son autorisation. On n'a pas le droit, nous, de venir prendre les photos d'une personne malade et on se met à les partager dans les réseaux sociaux en disant « Regardez l'exemple ». Si la personne n'a pas donné son consentement, on ne peut pas le faire. Mais par contre, ce qui a été fait, et vous l'avez vu, c'est que certaines personnes, on peut les utiliser pour témoigner qu'elles étaient malades, qu'elles ont été soignées et qu'elles sont guéries. Et ça, vous avez vu, je ne vous donne pas les exemples, il y en a légion. Mais je pense qu'à ce stade, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas le fait qu'on va vous montrer un malade à la télévision que vous allez dire « Ah, la maladie existe ». Non, on a des évidences. Mais aussi, nous sommes dans une situation où quand vous avez un malade, il faut l'assister, il faut lui apporter un soutien psychologique, lui apporter un soutien moral, parce que ce que vous voyez dans ce pays, dans les réseaux sociaux, mais franchement, c'est comme si on tue le malade même avant qu'il ne meure. La manière dont on commente ses photos, la manière dont on envoie les messages à la famille même de la personne affectée, mais vous n'avez pas le courage, un jour, si vous êtes malade, de se ressortir. Donc cet aspect de discrimination, de stigmatisation doit très vite changer au sein de la population pour que les gens aient le courage de venir se faire dépister et dire tout haut, je suis malade, prenez soin de vous aussi, et ainsi de suite. Je crois que c'est tout un comportement qu'il faut travailler dans la population.
Alors, Gloire est à Arou et Michel à Dungu. Ce sont le des territoires qui sont à l'extrême nord de la RDC, proche de l'Ouganda. Et nous faisons le point dans Parole aux auditeurs sur la mutualisation des forces, des connaissances et des atouts par rapport aux pays africains. Comment faire face à la pandémie de coronavirus. Gloire, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Arou. Bonjour.
Bonjour, ce n'est pas Gloire, c'est Dieudonné Tchombe.
Ah, Dieudonné, vous êtes à Arou. On vous écoute, Dieudonné.
Oui, je disais que l'initiative est vraiment salutaire, mais j'avais voulu poser une question par rapport à ce sujet. Mais des fois, c'est grâce à la Africains se sont retrouvés pour parler à cette pandémie et qu'elle en était l'issue. Et puis, ça explique l'idée, il serait peut-être évident que les pays qui ont déjà vécu la pandémie apportent leur expertise aux pays à haut risque. Et que chaque pays aussi ayant des hauts risques prenne aussi des engagements propres à eux. Deuxièmement, ce qui m'inquiète, c'est l'ensemble des pays africains, des grandes régions là chez nous en Afrique. Ce qui m'inquiète, c'est quoi? Dans le cadre économique et sécuritaire, il n'y a pas d'attente, il y a la divergence. Est-ce que peut-être dans le cadre sanitaire, ils peuvent converger? Je crois vraiment que cette initiative reste vraiment une lettre morte. Parce que dans le cadre économique et sécuritaire, il n'y a pas d'attente. Peut-être dans le cadre sécuritaire, il peut y avoir des solutions. Je me demande là-bas.
Merci beaucoup, Dieudonné. Nous n'avons pas dit que le président, les trois présidents qui sont entretenus ont pris une décision finale, mais ils ont émis le vœu de voir le pays africain mettre ensemble leurs atouts, leurs connaissances pour faire face à la pandémie. Et vous aurez aussi aimé voir un pays qui a déjà fait un pas pour aider d'autres pays à haut risque. Mais votre peur, c'est de voir que déjà il y a certains pays voisins en Afrique qui ont beaucoup de difficultés à s'entendre sur le plan sécuritaire et politique, c'est-à-dire qu'ils ont une divergence de vue, et pour vous ça risque aussi d'être difficile de le voir se mettre ensemble, avoir une convergence de vue en ce qui concerne la question de la santé. Merci beaucoup Gloire. Michel, vous êtes à Dungu, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour aussi à l'invité et à tous les auditeurs de la Radio Pratique.
On vous écoute.
Oui, je voulais juste poser une question. Où en est-on avec le protocole de l'université de Lubumbashi et ceux de Kananga? Parce qu'on disait dernièrement ici que l'université de Kananga avait trouvé un molécule qui fait lutter contre le coronavirus. Merci.
Alors, on va demander directement, je crois, avant d'écouter Raymond qui est à Kindu, nous revenons à notre invité, docteur Michel Mouvoudi, parce que il y a notre ami de Lubumbashi qui a évoqué cette question-là des protocoles proposés à RDC. Notre ami des mondes, il y a eu un protocole proposé par le ministère, par l'université de Lubumbashi. Dernièrement, il y a une semaine et demie ou deux semaines qu'on parlait d'un protocole proposé par l'université Simon Kimbangu de Kananga. Alors, c'est cette question de protocoles, les différents protocoles. Au niveau de l'équipe des ripostes, docteur Michel Mouvoudi, est-ce qu'il y a des discussions avec d'autres experts congolais sur exactement tous ces protocoles proposés pour intervenir dans cette pandémie?
Oui, merci Pierrot. Non, je pense que on l'a mentionné encore une fois dans un communiqué. Sur les questions de recherche, hein, donc vous savez d'abord premièrement que le pays a un ministère de la recherche scientifique, ok. Donc ce ministère a justement ce devoir de pouvoir suivre tout ce qui est recherche scientifique, dont notamment ce que vous êtes en train de faire. Il n'appartient pas seul au ministère de la Santé, ni seul au comité technique de la riposte de valider ou d'invalider le protocole. Nous avons des instances attitrées, dont notamment le ministère de la Santé, vous avez le ministère de la Recherche Scientifique, vous avez aussi au niveau du pays ce qu'on appelle le comité d'éthique. Vous avez déjà entendu parler sûrement de ça. En fait, c'est le comité qui regarde un protocole et qui dit oui, ce que vous avez fait, ça vaut la peine, ça suivit les étapes ainsi de suite. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les gens doivent comprendre que dans cette situation où on est, plusieurs personnes sont en train de tenter de donner une solution. Ce qui est bien et ce qu'il faut encourager, mais il y a toute une démarche qu'il faut suivre, d'accord? Mais à ce stade, moi, je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'on en est avec, justement, toutes ces tentatives qui ont été présentées en termes des molécules, parce que quand vous avez une molécule, il faut savoir si la molécule a été testée, si la molécule n'est pas toxique, si la molécule est efficace. Il y a toute une série de choses qu'on appelle les essais cliniques. Mais je ne sais pas, moi, vous dire à quel niveau, justement, tous ces essais ou toutes ces propositions ont été validées en termes d'étapes suivies. Mais probablement, lors des prochaines émissions, je vous en donnerai de plus en plus de détails. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est qu'en fait, il existe des instances attitrées qui, justement, doivent répondre à ce genre de questions et décider, par exemple, de la mise sur le marché d'un médicament, ce qu'on appelle l'AMM. Donc, quand vous avez un médicament, vous passez par des étapes et vous obtenez ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, qui est délivrée par ce qu'on appelle la direction médicaments et pharmacie, ainsi que plantes médicinales, qui ont fait une grande direction, qui est au ministère de la Santé. Et donc, je pourrais éventuellement m'enquérir de l'évolution des différents dossiers évoqués par nos collègues et vous direz quoi au moment venu.
Merci beaucoup. Alors, on va écouter Raymond qui est à Kindu. Raymond.
Monsieur Perrot.
Oui, allez-y.
Est-ce que vous permettrez que je vous quitte pour une autre réunion ou bien vous avez encore besoin de moi?
C'est très bien. Je crois que non, c'est déjà très, très bien. Vous avez déjà donné les éléments parce que la question centrale était cette question de mutualisation de forces et de connaissances au niveau de l'Afrique. Je crois que les éléments clés ont été déjà abordés. C'est très bien, docteur Michel. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Perrot, et bonne suite de mission.
Merci. Alors, Raymond est à Kindu. Merci de nous avoir rejoints. Raymond, bonjour.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute, Raymond.
Ah oui, je félicite d'abord l'initiative des chefs d'État pour cette initiative-là, mais ce que je regrette un peu est que on a pris les mesures barrières et ces mesures-là sont respectées par-ci, par-là, mais les taux s'augmentent toujours. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de chercher comment apprendre encore déjà une autre mesure pour lutter contre cette pandémie-là? Vraiment, nous sommes contents avec ça, mais que l'État congolais et d'autres États qu'ils puissent encore lever notre mesure pour lutter, parce que je vois que les mesures que l'État avait prises ne donne pas de bonnes solutions parce que les taux s'augmentent à tout temps. C'est juste ça.
Merci beaucoup Raymond. Vous estimez qu'on peut aujourd'hui arriver à ajouter d'autres mesures hein, parce qu'il y a une augmentation des cas, que les chefs d'État africains puissent réfléchir là-dessus. Merci beaucoup. Alors, nous avons en ligne Michel Kapala, président du Conseil national des tradis praticiens. Merci de nous avoir rejoint, Monsieur Kapala. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ici, le débat, c'est autour de la mutualisation des connaissances et des forces au niveau de la sous-région, que ce soit dans les Grands Lacs, que ce soit en Afrique. Hein. Alors, quel peut être le niveau de cette mutualisation des connaissances souhaitée par le chef d'État africain?
Oui, normalement, c'est vraiment bien tombé, surtout avec la politique de l'OMS, qui veut dire 80% de la population rurale est recours à la médecine traditionnelle. Moi, je pense que parler en tant que communautaire, c'est vraiment bon pour donner notre contribution en tant que tradis praticien dans la résolution de cette crise qui est sanitaire. Par exemple, les tradis praticiens sont aussi des médecins qui sont en contact avec le malade. Alors, cette classe-là n'est pas sensibilisée. Nous avons voulu qu'on puisse que l'implication des tradis praticiens soit effective. Pourquoi? Parce que pour limiter la propagation de cette maladie. Les médecins tradis praticiens sont devenus des cibles, des victimes. Pourquoi ils ne sont pas sensibilisés? Pour eux, la maladie même n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent que leur père. C'est ça les difficultés que nous avons. Alors les tradis praticiens ont besoin de quoi? Ont besoin d'être en contact avec l'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils sont des victimes. Ils veulent en amont détecter des malades. Ils veulent aussi avoir des tensiomètres, plutôt des thermomètres laser. Pourquoi? Parce que quand un malade vient chez un tradis praticien, en amont, on voit que la personne a de la fièvre, on ne peut pas le toucher. Qu'on l'amène, ces malades, jusqu'au centre où on pourrait dépister s'il est atteint ou pas. C'est ça l'implication des tradis praticiens pour limiter la progression.
Mais est-ce que déjà, Michel Kapala, si déjà un membre de la communauté vient voir un tradit praticien, vous voyez qu'il présente des symptômes de la maladie, vous ne pouvez pas directement l'orienter vers une structure où il peut être pris en charge, ou bien votre souci aussi, c'est dans le cadre de la prise en compte des traitements qui sont proposés par les tradits praticiens?
Bon, merci beaucoup pour la question. Normalement, nous allons résoudre ces problèmes par deux chapitres. Premièrement, nous voulons d'abord la sensibilisation. On parle pas d'abord du traitement. La sensibilisation pour éviter la propagation de cette maladie. Que l'implication soit effective. C'est vrai. Papa Mouyembe nous avait demandé lui-même, il est passé à la radio pour demander que les tradis praticiens puissent amener leurs médicaments pour voir si j'ai des moyens, comment on pourrait faire par les contributions pour élaborer un vaccin ou un remède. Mais arrivé là-bas avec le recette, il n'y avait personne pour nous recevoir. Donc c'est cette implication qui n'est pas effective. On a vu qu'il y avait un groupe de tradis praticiens dirigé par les programmes. Mais là-bas, il n'y a aucun tradis praticien que nous connaissons. Il y a des pharmaciens qui dirigent cette structure. Et raison pour laquelle c'est difficile pour l'implication. Deuxièmement, le chef de l'État parle ces derniers temps avec Madagascar. Mais c'est la médecine traditionnelle qui va distribuer ces médicaments. C'est le Conseil national des tradis praticiens. Parce que c'est la nature, c'est ça le problème. Alors nous voulons l'implication directe du président de la République. Il a déjà fait. C'est ça ma petite contribution. Si il y a des questions, je suis là.
Merci beaucoup, Michel Kapala. Vous avez insisté sur le fait qu'il faudrait que l'équipe des ripostes aujourd'hui prenne en compte cette demande de tradis praticiens pour les intégrer dans le travail qui doit être fait, parce qu'il faut d'abord cette question de sensibilisation. Vous souhaitez que ça soit ainsi, parce que la population rurale, la tendance, recourt à la médecine traditionnelle. Pourquoi ne pas impliquer ceux-là qui sont en contact direct avec la population et quitte à pouvoir les orienter vers les structures spécialisées? Et nous estimons que le Conseil national des tradis praticiens pourra être intégré parce qu'ils sont en contact à tout moment avec la population qui recourt à la médecine traditionnelle pour se faire soigner. Merci beaucoup, Michel Kapala. Michel Mangbanga, vous êtes à Dungu. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour, Michel.
Bonjour, Pierrot. Bonjour aussi à tous les journalistes de la radio Capi.
On vous écoute.
Moi, j'avais posé la question que où en est-on avec le protocole de l'université de Kana,
Kananga avec ceux de Lubumbashi, parce que dernièrement, si on avait dit que ceux de Kananga avaient trouvé un molécule qui peut lutter contre le coronavirus.
Alors, si vous avez suivi tout à l'heure, Michel, docteur Michel Moufoudi, expert en santé publique, était avec nous, qui est aussi membre de l'équipe des Ripostes. Hein, il a répondu à cette question parce que elle a été posée par notre ami de Lubumbashi. Il a dit c'est pas au niveau de l'équipe des Ripostes. D'abord parce qu'il y a plusieurs structures qui s'en occupent. Il y a d'abord le ministère de la Recherche scientifique qui gère la matière. Il y a la direction de médicaments et de la pharmacie et des plantes médicinales au niveau du ministère de la Santé. Il y a par exemple les comités éthiques, cela veut dire que quand les gens découvrent leurs molécules ou bien ils inventent un médicament, ils fabriquent tout ce qu'ils peuvent faire, il y a des canaux et des voies qu'il faut aujourd'hui amener cela. Alors c'est quand tout est validé au niveau de toutes ces différentes structures, c'est alors que le médicament peut être mis en circulation. Alors, il a dit que pour le moment, on n'a pas plus d'informations sur ce qui a été proposé à gauche, à droite. Faudrait-il d'abord que ça passe par toutes les voies qui sont recommandées et comme ça, ça pourra être autorisé, être mis en circulation. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir dans cette émission Parole aux auditeurs. Mais vous pouvez également commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche en cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après utilisation.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Trésor, merci d'être avec nous ici à Kinshasa. Je pense que la ligne s'est améliorée. Trésor, bonjour.
Bonjour Pierre Lamège, bonjour Radio Capi. Oui, je disais, l'option prise ou soulevée par Félix ensemble avec ses homologues, c'est une bonne chose. Nous pouvons embrasser ou saluer cette option-là. En fait, il faut à ce stade ici sortir de ce qui est local ou national. Pour ce moment, parce que le coronavirus est devenu totalement une pandémie qui a touché beaucoup d'États africains. Donc, vous devez aussi comprendre que notre économie est extravertie. Nous dépendons de l'extérieur. Donc, il y a beaucoup d'avantages pour que les pays africains puissent en fait se mettre ensemble pour dégager des pistes de solutions afin de venir à bout du COVID-19. Mais à l'entretemps, parce que jusque-là, il n'y a pas un médicament qui soit curatif pour répondre positivement au cas du COVID-19, j'aimerais souhaiter que le respect des gestes barrières soit une chose obligatoire. Même le confinement, mais j'en profite. J'ai suivi au niveau de Lubumbashi qui est l'une des villes de la République démocratique du Congo, il y a un monsieur qui est venu à partir de la frontière. Qui est entré à Lubumbashi, à cause de lui, il est parvenu à contaminer plusieurs personnes. Voilà la raison pour laquelle je demande au président de la République de pouvoir intervenir pour la troisième fois, en fait, de dégager des mesures pour que toutes les provinces, en fait, qui composent la République démocratique du Congo, puissent vivre dans le confinement. Parce que nous sommes en train de voir que les mesures de confinement ne sont pas envisagées ou respectées au niveau de nos provinces. Donc, je profite par l'entremise de la radio Capi pour demander au président de la République enfin de vouloir de pouvoir intervenir pour que les mesures de confinement soient respectées dans toutes les provinces, parce que certaines provinces sont distraites jusque-là, mais c'est zéro et la mesure. Mais sinon, l'option des présidents africains, c'est une bonne chose. Et ça ne demande même pas que les présidents africains seulement.
Merci, merci.
À la vigilance de merci. Tous les présidents du monde entier.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, merci de ce message pour le respect de gestes barrières. On a d'ailleurs dénoncé le fait aussi que la communauté elle-même soit laxiste parce que les gens ont traversé la frontière. Vous l'avez dit, pour vous, il faut arriver vraiment à confiner l'ensemble des provinces pour éviter vraiment qu'il y ait des gens qui s'infiltrent et qui apportent la maladie. On termine avec vous, Ngalenga, rapidement. On a peut-être 30 secondes pour vous. Vous êtes à Bounia. Bonjour, Ngalenga.
Fermer les 9 barrières, c'est difficile, mais nous cherchons maintenant aujourd'hui à nous isoler, surtout l'écartement de 2 mètres ou plus. C'est là que nous nous intéresse beaucoup.
Et c'est ce qui est important, oui. Oui. Merci. Merci beaucoup, Galenga. Vous dites que c'est difficile aujourd'hui de pouvoir fermer, couper toutes les provinces et pouvoir confiner toutes les provinces. Mais dis-moi, le respect des gestes barrières, c'est très important. Merci beaucoup, hein. Vous avez été nombreux. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Allô? 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 Mais, ils ne répondent pas?
Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en ordre de ce magazine réalisé par Jirlungembo et Tatimapoukou. Pierrot et la Meiji, j'ai eu le plaisir de vous le présenter. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. On se dit au revoir et surtout n'oubliez pas ces gestes barrières. Lavez-vous fréquemment les mains. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude. Évitez de vous serrer la main ou de vous embrasser. Surtout, respectez cette distance d'un mètre. C'est vraiment ce qui est plus efficace aujourd'hui pour faire face à cette pandémie. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Au revoir.
L'émission Paroles aux Auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.